Merci beaucoup, Martin.
À bientôt.
À bientôt. On va accueillir Stéphane maintenant et sa chronique. Alors, si j'ai bien compris, on parle vampire ?
Exactement. Alors, on va sortir un peu des sujets politiques et geeks. On va parler cinéma. Ah. Le film en question, il n'est pas fraîchement sorti, mais on y évoque l'intemporalité de l'art. Et si l'actualité est éphémère, l'art ne l'est pas. Donc, il n'est jamais trop tard pour chroniquer un film, surtout lorsqu'il est encore à l'affiche. D'accord.
Ouais.
Alors, quand on évoque les films de vampires, on pense en premier lieu à des blockbusters comme Twilight ou des classiques de l'horreur comme Nosferatu, sans oublier le Dracula éprouvé incarné par Christopher Lee. Mais quand c'est Jim Jarmusch qui se mêle d'une affaire de vampires, on ne doit pas s'attendre aux films d'horreur stéréotypés, mais plutôt à un conte philosophique dont le thème vampirique sert seulement de prétexte à un film rock. Le rock, c'est en effet un thème récurrent dans l'œuvre de Jarmusch, donc chaque long métrage est une variation par l'histoire, la bande originale ou le choix des contributeurs. On se rappellera notamment des apparitions de Rufus Thomas, l'inventeur du funk, de Screaming Jay Hawkins ou même du Clash Joe Strummer dans le Memphis de Mystery Train, un film dont le titre est aussi celui du morceau rockabilly ultime chanté par Elvis. On se rappellera de Tom Waits qui incarnait un DJ radio dans Down by Law, auquel il a également contribué à la bande originale. Et n'oublions pas Neil Young qui a carrément improvisé le jeu de guitare qui tisse la bande sonore de Dead Man. Cette obsession rock'n'rollienne du réalisateur nous aide à comprendre qu'une des premières ambitions du cinéaste était en effet de devenir rocker, comme en témoigne son passé de musicien punk. Dans notre film, on y arrive. Only Lovers Left Alive. Oui. Seuls les amoureux restent vivants. Jim Jarmusch ne déroge pas à sa propre règle, puisque le film s'ouvre musicalement sur Funnel of Love de Wanda Jackson, qui sort d'un vinyle qui tourne sous la pointe du saphir avant d'embrayer sur Charlie Fevers, un rockabilly culte qui avait déjà été déterré par Tarantino dans Kill Bill. Après cette ouverture très rock'n'roll du film, vous avez droit à un défilé de guitares vintage commenté par le rocker vampire et les amateurs de six cordes s'en délecteront et apprécieront la rigueur du commentaire quant à l'histoire des instruments qui forment cette collection vintage. Le titre du film témoigne de la trame de l'histoire « Seuls les amoureux restent en vie ». Le couple formé par Tom Hiddleston qui joue Adam et Tilda Swinton qui joue Eve.
Oh tiens.
Ben voilà. Traversent les siècles. Et oui, non seulement ils sont les premiers, mais ils traversent les siècles.
Wow.
En ayant l'air cependant de s'ennuyer ferme, puisque la seule activité sensée de leur vie séculaire, c'est la quête de sang frais, à côté de distractions comme la musique. Le vampire étant un oiseau nuit, c'est évidemment l'obscurité qui domine dans ce film. Et comme de vrais rockers, nos vampires s'activent la nuit et végètent le jour. Et nos vampires errent. Ils errent dans l'espace, mais surtout dans le temps qui s'étire sur des siècles. Dans leur errance temporelle, ces vampires, à l'instar des rockstars, font preuve de snobisme. Fine bouche, il leur faut un sang millésimé. Groupe O Rhesus négatif, s'il vous plaît, fourni par des hôpitaux où sévissent des dealers d'hémoglobine déguisés en docteurs. Et entre deux shots, que font-ils ? Eh bien, ils bricolent et ils occupent leur temps étiré sur les siècles en créant. Alors, il n'en fallait pas plus pour établir l'analogie évidente entre les vampires assoiffés de sang et les rockers accros aux drogues.
Bah oui.
Qu'il s'agisse de la matière organique, du sang frais ou des substances synthétiques, rocker ou vampire rocker, parviennent par ces catalyseurs à sombrer dans des paradis artificiels. Ils stimulent ainsi leur créativité avec une capacité de production artistique insoupçonnée et inconnue de nous autres mortels. Multidisciplinaires, ils ont produit quelques-unes des plus grandes œuvres que se sont appropriées des imposteurs renommés comme Schubert, Byron ou Shakespeare. Il n'y a là qu'un pas à franchir pour croire que la Joconde fut peinte par un vampire pote de Léonard de Vinci. Et croire qu'en servant de nègre aux plus grands contributeurs culturels de l'humanité, ce sont finalement les vampires qui mènent le monde, rien de moins avec Adam et Ève, le couple originel. Jim Jarmusch nous emmène donc en balade comme dans chacun de ses films. Dans Mystery Train, on vagabondait dans Memphis entre deux apparitions miraculeuses du King Elvis. On était fugitif dans les bayous de Down by Law quand Johnny Depp tournicotait dans l'ouest allégorique de Dead Man. Cette fois, le cinéaste rocker nous emmène à Detroit, donc Détroit, une des capitales du rock, ville de gestation de Iggy and the Stooges, du MC5 ou d'exil de Johnny Hooker ou de Jack White, dont la maison natale est en décomposition. Non, elle est admirée par notre couple de vampires. Mais la ville elle-même est en décomposition et elle démontre les limites du monde matériel où seuls les êtres survivent sous forme de zombies ou de vampires. Et la ville miroir de Detroit dans le film, c'est la marocaine Tanger, au lieu des paradis artificiels magnifiés par les poètes de la Beat Generation qui ont préfiguré l'apparition du rock'n'roll. Jarmusch exploite peu de stéréotypes vampiriens, sinon l'addiction au sang et la crainte de la lumière du jour, cette lumière qui leur fait porter des lunettes noires même dans les ténèbres. Et si un grand rocker, aussi vampire soit-il, porte des lunettes noires, c'est que ça doit être cool. Il est sorti le 19 février, il est encore à l'affiche au club, rue du Phalanstère, pour deux séances quotidiennes à 13h45 et 21h45.
Eh ben on ira voir ça, avec grand plaisir. Merci beaucoup Stéphane.